À Rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question de la recherche de Dieu. C'est fondamental. Tout le monde, au fond, même s'ils ne le savent pas, sont à la recherche de Dieu. Tout le monde est à la recherche de Dieu. Et le pape dont il a été question tout à l'heure dans l'émission très intéressante qui a précédé la mienne, de l'abbé Claude Bertrand, il a parlé du pape. Et justement, le pape vient de publier, il y a un peu plus d'un mois, une lettre encyclique extrêmement intéressante. Si ce n'est pas la plus intéressante de toutes celles qu'il a écrites, moi, il me semble que c'est la plus intéressante. C'est en tous les cas l'une des deux ou trois plus belles. C'est une lettre sur les rapports entre la foi et la raison, la recherche de Dieu, quoi. Oui. Et ça s'appelle en latin « Fides et ratio », foi et raison. Il écrit au début « Un simple regard sur l'histoire ancienne montre clairement qu'en diverses parties de la Terre, marquées par des cultures différentes, naissent en même temps les questions de fond qui caractérisent le parcours de l'existence humaine. On a toujours les mêmes questions partout sur toute la surface de la Terre, tout le monde se pose la même question. » Vous les connaissez, ces questions, depuis votre enfance. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais sur cette planète? Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là, de ce vaisseau spatial sur lequel je suis? D'où viens-je? Dit le pape, écrit le pape. D'où viens-je? Et où vais-je? Pourquoi la présence du mal? Qu'y aura-t-il après cette vie? Ce sont les questions qu'écrit le pape. Il ajoute, et c'est très intéressant. Ces interrogations sont présentes dans les écrits sacrés d'Israël. Je vais vous en parler tout à l'heure. Mais elles apparaissent également dans les Védas ainsi que dans l'Avesta. Nous les trouvons dans les écrits de Confucius et de Lao Tzu, comme aussi dans la prédication des Tirthankara et de Bouddha. Et le pape ajoute, ce sont encore elles que l'on peut reconnaître dans les poèmes d'Homère et dans les tragédies d'Euripide et de Sophocle, de même que dans les traités philosophiques de Platon et d'Aristote. Ces questions ont une source commune, la quête de sens, en d'autres termes, la recherche de Dieu, si vous voulez. La quête de sens, qui depuis toujours est pressante dans le cœur de l'homme, car de la réponse à ces questions dépend l'orientation à donner à l'existence. Vous savez qu'il y a beaucoup de suicides, on en parle beaucoup. Est-ce que les gens savent pourquoi ils vivent? Ils se désespèrent, c'est pas de leur faute. On ne leur a à peu près rien dit. Et le pape ajoute, l'Église n'est pas étrangère à ce parcours de recherche, recherche de Dieu, recherche du sens, et elle ne peut l'être étrangère. Depuis, dit le pape, que dans le mystère pascal, elle a reçu le don de la vérité ultime sur la vie de l'homme, elle est partie en pèlerinage sur les routes du monde pour annoncer que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Oui, c'est ce qu'enseigne l'Église, c'est assez étrange, mais c'est superbe. Quelqu'un qui s'est dit « le chemin, la vérité et la vie ». Comment un homme peut-il dire ça de lui-même s'il n'est pas Dieu? C'est des questions que je me pose. Et je termine avec autre chose que le pape dit. Je viendrai à mon sujet tout de suite après, c'est pas très long ici. À l'origine de notre être de croyant se trouve une rencontre, unique en son genre, qui a fait s'entrouvrir un mystère caché depuis les siècles, mais maintenant révélé. C'est la rencontre de Dieu, quoi. Et il cite saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, au début de l'Épître aux Éphésiens. Il a plu à Dieu dans sa bonté et sa sagesse de se révéler, lui-même, et de faire connaître le mystère de sa volonté, en d'autres termes de son amour, si vous voulez, par lequel les hommes ont accès auprès du Père, par le Christ, Verbe fait chair, dans l'Esprit Saint, et sont rendus participants de la nature divine. Vous avez là un résumé, c'est dans Éphésiens, chapitre 1, verset 9, le résumé de ce que c'est que la messe, de ce que c'est que notre vie, de ce que sera pour toujours notre existence éternelle. Et le pape termine en disant de lui-même, c'est là une initiative pleinement gratuite qui part de Dieu pour rejoindre l'humanité et la sauver, la libérer, quoi. En tant que source d'amour, Dieu désire se faire connaître. Et la connaissance que l'homme a de lui porte à son accomplissement toute autre vraie connaissance que son esprit est en mesure d'atteindre sur le sens de son existence. Cherchons et trouvons ensemble. Chercher Dieu, cette démarche paraît bien exprimer le mouvement essentiel et ultime de l'homme, de tout homme. Même des enfants à 6 ans, 7 ans se posent cette question. On nous la posait quand on était jeune. Pourquoi sommes-nous sur la terre? Pour apprendre à connaître Dieu, à l'aimer, le servir, pour être heureux avec lui pendant l'éternité. Souvenez, on récitait ça comme ça. Et on l'apprenait, ça finissait par rentrer dans notre petit crâne, dans notre cœur. C'est à la fois le désir le plus profond de l'être de l'homme. Et c'est l'exigence fondamentale de Dieu que de chercher Dieu et de se laisser chercher par lui. La première page des Confessions de saint Augustin dont je vous ai parlé le 16 septembre. Eh bien, il écrit ce texte admirable qui revenait souvent dans la bouche de Marcel Brisebois dans les entrevues rencontres à la télévision. Tu nous as fait pour toi et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi. Je répète, c'est une des plus belles phrases de toute l'histoire du christianisme. Tu nous as fait pour toi et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi. Puis la première page des exercices de saint Ignace. L'homme, saint Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites, hein, l'homme a été créé pour louer, honorer et servir Dieu. Tout ça, ça fait écho au début de l'Épître aux Romains, quand saint Paul, lui, pour situer l'humanité devant Dieu, il dénonce son péché fondamental. Le péché fondamental de l'homme, c'est l'humanité, c'est quoi? Connaissant Dieu. Et ne lui rendre ni la gloire, ni l'action de grâce, qui reviennent à Dieu. C'est le plus grand péché. Et c'est la plus grande source de malheur, et c'est la plus grande source d'ennui. Voulez-vous mener une vie plate, comme on dit en langage vulgaire? Eh bien, après avoir connu Dieu et su que Dieu vous a fait, et que c'est lui qui a fait vos enfants, et que c'est lui qui a créé ce monde, et que c'est lui qui nous aime le premier, eh bien, ne lui rendez ni la gloire, ni l'action de grâce. N'allez pas à la messe. Non, non, ne faites pas ça. Tout ça, ça revient à Dieu, lui rendre grâce, lui dire merci. Monseigneur Zogby, un archevêque libanais que j'aime beaucoup, m'a envoyé son dernier livre. Je suis comme ça, je n'y puis rien. Puis il écrit, on nous a appris dès notre enfance à dire merci. Et chaque fois qu'on nous offre quelque chose ou qu'on cherche à nous être utile ou à nous faire plaisir, remercier est devenu une manie pour moi. D'autre part, j'ai le sentiment que l'objet qui m'est offert ne m'appartient pas définitivement et le bonheur que je ressens demeure éphémère tant que je n'aurai pas dit merci. Les preuves de l'existence de Dieu sont multiples et variées. Et Mgr Zogby ajoute, pour moi, il y en a une qui m'émeut profondément, c'est le besoin pressant de dire merci. Quand je me sens intimement heureux, oui, de dire merci à quelqu'un, puis met un U majuscule à un, à quelqu'un, qui seul peut répandre au plus intime de moi-même ce bonheur et cette paix ineffable. Et écoutez bien ce que ce vieil archevêque arabe écrit, ou phénicien peut-être, il est libanais, Mgr Zogby. Ceux-ci, en effet, ne peuvent procéder, le bonheur, la paix ineffable, que du souverain bien qu'on appelle Dieu. Les êtres humains ne peuvent les prodiguer ni aux autres ni à eux-mêmes. Ils peuvent tout au plus s'en donner durant des instants fugitifs et l'illusion. Il termine cette belle page 62. Oui, Dieu est. Et s'il n'habitait pas sous ma tente, j'irais le chercher de porte en porte pour lui dire seulement « Merci ». C'est paru, ça, dans des éditions privées au Liban, il y a à peine quelques semaines. Si vous en voulez un exemplaire, il faut écrire probablement « Monseigneur Zoghbi », Z-O-G-H-B-Y. Boîte postale 16, trait d'union 5379, à Beyrouth, au Liban. Alors, c'est comme ça. Nous sommes faits pour ça. Et si on ne le fait pas, on est malheureux. Et voilà trois textes majeurs, donc. Celui des Confessions de Saint-Augustin, de Saint-Ignace puis de Saint-Paul. Trois textes fondateurs. Et c'est une conviction de base. Hein, l'homme est fait pour chercher Dieu. Et Saint-Paul est plus sensible à l'état de l'humanité, qui pense à autre chose et qui se perd dans la platitude du péché fondamental, qui est le désert de l'âme. Oui, il est plus sensible. Saint-Augustin, lui, est plus attentif à l'aspiration profonde de la créature. Puis Saint-Ignace, lui, bien, il est préoccupé d'abord du but à atteindre. Il le dit bien, l'homme a été créé pour louer, honorer et servir Dieu. Mais tous les trois se rejoignent en profondeur. Oui, comment ça? Ils sont plus que les témoins d'une tradition unanime, ils se retrouvent dans une expérience identique. Oui, la même expérience les habite, et qu'est-ce au juste que chercher Dieu? Ça a besoin d'être expliqué. Il y a eu toutes les perversions païennes, toutes les étranges choses qui se sont concirculées au cours des temps. Et saint Augustin écrit dans ses confessions pour rappeler le long chemin qu'il lui a fallu lui-même parcourir pour que son désir cesse de s'égarer. Puis saint Ignace aussi compose les exercices pour aider les âmes à chercher et trouver Dieu. Mais chercher Dieu, donc, ça demande de la disponibilité, puis du discernement, puis du courage, puis de l'intelligence. En d'autres termes, il faut prendre le temps. Et surtout, ne pas s'enticher d'un gourou ou d'un égarouillé. Il faut vraiment chercher Dieu pour vrai. Dans un petit livre qui vient de paraître chez Mediapol par une femme, écrit par une femme, Isabelle Prêtre, et en dépit de son nom de famille, prêtre, elle est laïque, évidemment, elle est écrivain, psychologue et professeur de philosophie. Elle a écrit d'autres livres comme ce beau livre, ce « Dieu qui nous dérange ». Elle dit à un moment donné, « Dieu dérange-t-il ? » Si le contraire était vrai, si ce n'était pas Dieu qui nous dérangeait, mais son absence, cette absence que pour notre malheur nous avons inventée, car Dieu, lui, ne nous a jamais quittés. Il est partout présent, dans le monde, dans nos cœurs, dans nos maisons, sur les lieux de notre travail et dans tous les tabernacles des églises. L'Évangile, comme le dit saint Paul, est parvenu jusqu'à nous, ainsi que dans le monde entier. Nous savons bien que Dieu ne dérangerait personne s'il n'existait pas, et que ce malaise en nous, dès que nous nous tenons éloignés de son regard, prouve peut-être à lui seul son existence. Nous avançons là une hypothèse, certes, mais, comme dirait Henri Bergson, la preuve pour être vraie n'a pas nécessairement besoin d'être cartésienne. Elle peut parfois être le fruit d'une intuition. Chez Bergson, il y avait beaucoup, chez ce philosophe, cette intuition. Et nous savons, ajoute Isabelle Prêtre, et nous savons aussi que si Dieu n'existait pas, loin d'être joyeux et libre, nous serions désespérés. Sans Dieu, il est vrai, nous sommes libres, mais d'une liberté tragique. Une liberté d'orphelin. Alors, dans la recherche de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a les caricatures. Il y a ceux qui confondent le vrai Dieu puis les idoles. Hein? Ceux qui pensent que le Dieu nous punit, Dieu nous envoie du verglas, Dieu nous tue nos enfants pour voir comment on va réagir. Dieu tue notre femme ou notre mari à 30 ou 40 ans pour voir comment on va faire. Voyons donc. Quelle horreur! Il y a ceux qui entraînaient les Israélites autrefois auprès des rois, des dieux, des Baals, des devins, des nécromanciens. C'est la grande mode ces jours-ci avec l'Halloween. Hein? Il y a ceux qui tournent autour des morts et des revenants. Oh mon Dieu. Ça, ce sont des tentations qu'on pourrait croire. Dans un monde supposément intelligent comme le nôtre, on pourrait les croire disparus, mais ça prend souvent aujourd'hui d'autres formes. Hein? Et les formes les plus bêtes. La fascination pour ces émissions de télévision qui traitent de toutes ces questions abracadabrantes. Et les journaux et les revues, et les horoscopes et tout ça. Mais d'autres demeurent. Et combien plus dangereux, c'est la confusion la plus souvent dénoncée, en tout cas, par les prophètes de l'Ancien Testament. C'est celle qui identifie la recherche du vrai Dieu et les pratiques religieuses vécues dans l'injustice. Je m'explique. Et je cite le prophète Isaïe, qui a écrit ça il y a 1700 ans. Si c'est Dieu qui parle par sa bouche. « Chaque jour, ils me recherchent, ils veulent connaître mes voies. Ils me recherchent, ils me demandent des règles de justice, ils veulent être près de moi. » Comme s'ils étaient une nation qui pratique la justice et ne néglige pas le droit de son Dieu. Mais Dieu se rend bien compte de ce qui se passe. Son peuple n'est pas juste. C'est donc dire qu'il y a équivalence entre chercher Dieu et chercher la justice. Dieu y tient à ça. Dans le prophète Osée, on peut lire cette phrase admirable. « Faites-vous des semailles de justice, il est temps de chercher Yahvé. » Ça va ensemble. Puis dans Sophonie, il dit « Cherchez Yahvé, cherchez la justice », c'est assez clair. Puis Jésus, lui, qui est Dieu pour nous, chrétiens, catholiques, Jésus parle le même langage. Hein? Dans Matthieu, chapitre 6, « Cherchez le royaume de Dieu et sa justice ». Puis dans Matthieu, chapitre 5, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice ». Il faut bien reconnaître que la justice ne recouvre pas exactement la même réalité dans tous ces exemples. Elle est, disons chez les prophètes, plus caractéristique d'une société, disons, équilibrée, où chacun a sa place et se voit reconnu son droit. C'est-à-dire, à la fois ses besoins essentiels, sa personnalité propre. Tandis que chez Saint Matthieu, la justice désigne chez Saint Matthieu plutôt la perfection personnelle de chacun. Il est clair, en tout cas, que la recherche de Dieu ne se sépare pas de la recherche attentive des autres et de leurs besoins. On ne peut pas chercher Dieu sans chercher à faire attention à son prochain, même dans un cloître. Souvenez-vous de Sainte Thérèse d'Enfant Jésus qui s'occupait des sœurs les plus désagréables, qui avaient mauvais caractère. Elle en prenait soin. Elle les aimait et les attendrissait. Dès l'Ancien Testament, les deux grands commandements de l'Évangile déjà sont liés. Ça vous surprend? Oui, chercher la justice est la preuve d'une recherche authentique de Dieu. Mais est-ce qu'on peut dépasser ce critère, cette preuve? Il semble bien que non, c'est Jésus qui le dit. Hein? Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. Il le dit dans Saint Marc chapitre 12. Quand on cherche Dieu, on cherche la justice en même temps. Et s'il y avait un au-delà des commandements, une perfection supérieure, eh bien, de fait, quand il s'agit des autres commandements, là, de ceux qui ne sont pas les plus grands, ceux qui numèrent Jésus, là, quand il répond à la question du jeune homme riche, vous vous souvenez, tu ne tueras pas, on voit bien qu'au-delà de ces interdictions négatives, ben, il y a place pour des comportements, disons, supérieurs. Il est simplement impossible d'aller plus loin que d'aimer Dieu de tout son cœur et de toute son âme. Ici, le commandement lui-même exclut toute limite. Il interdit toute tentation de se croire parfait. Tout au contraire, c'est le commandement lui-même qui paraît irréalisable et au-dessus de toutes nos forces, c'est à pleurer des fois. Hein? On dit, comment vais-je en arriver avant de mourir d'aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme? J'y arriverai jamais. Peut-être, justement, la recherche de Dieu ouvre-t-elle une voie vers la solution? Cette voie, c'est celle où Dieu a engagé Saint Paul Et saint Paul a su magnifiquement décrire le secret de cette recherche. C'est être saisi. Chercher Dieu et être cherché par Dieu. S'il y a un homme qui a toujours cherché à aller jusqu'au bout de ses forces, hein? Oh, c'est bien saint Paul. Hein? Même converti, retourné par le Christ sur le chemin de Damas, il tombe en bas de son cheval, il devient aveugle. Il n'interrompt pas sa course. Il écrit dans l'Épître aux Philippiens, « Je m'élance pour tâcher de le saisir, parce que j'ai été saisi moi-même par Jésus-Christ. » Et lui, Paul, le pharisien irréprochable, oui, le zélateur passionné de la loi avant sa conversion, mais il a découvert le visage de son Seigneur. Il a trouvé dans la foi au Christ la justice qu'il cherchait depuis toujours. Et plus rien, oui, plus rien ne compte désormais pour lui que de connaître ce visage, de s'identifier à lui dans la communion à ses souffrances et à sa mort. Il me dit bien dans l'Épître aux Philippiens, toujours au chapitre 3. C'est si beau ce chapitre 3 de l'Épître aux Philippiens. Il n'est pas arrivé au but, bien loin de là, mais qu'importe le temps et la distance, il est pris. Il s'appartient plus. Il écrit dans l'Épître aux Galates, « Ce que je vis maintenant dans la chair, c'est dans la foi que je le vis, celle du Fils de Dieu qui m'a aimé. Et s'est livré pour moi, livré par amour, on va s'en dire. » Par la lumière donc de Paul, il est possible de relire toutes les Écritures. Lui-même en a donné l'exemple. Il appuie sa découverte sur l'exemple d'Abraham et de sa foi. On ne serait pas autre chose en transportant son expérience dans le langage de la recherche de Dieu. Avant la loi, et plus profond qu'elle, la loi des Juifs, là, il y a la foi d'Abraham. Avant la recherche de Dieu par l'homme, et plus profond qu'elle, hein, il y a la recherche de l'homme par Dieu aussi. Dieu nous cherche. Ce n'est pas un aspect secondaire de la révélation biblique, ça. C'est une donnée constante. Hein. On retrouve toujours ça. Dieu nous cherche. Son amour est là devant nous, si doux, si brûlant. Et nous sommes comme inconscients. Comment faire pour être éveillés? Pour être en état d'éveil, comme on dit dans les religions orientales. Être éveillé. Ah, quelle que soit la date difficile à déterminer des premières rencontres entre Dieu et le peuple d'Israël, mais la mise en place de ces rencontres, qu'on retrouve dans le livre de l'Exode, au début de la Bible, a pour toujours déterminé la foi de ce peuple juif. Hein, 4 siècles après les patriarches, 4 siècles d'oubli apparent et réciproque, Dieu se manifeste à Moïse. Oui, il vient, Dieu, il s'approche, il vient à lui. Au milieu du buisson ardent, vous connaissez ça, c'est si beau dans l'Exode au chapitre 3. Et selon le récit biblique, cette venue est une réponse aux cris d'angoisse montés des Hébreux réduits en esclavage. Et Dieu lui-même confirme cette interprétation. Il dit, j'ai vu, c'est Dieu qui parle, j'ai vu la misère de mon peuple juif là en Égypte. J'ai entendu sa clameur, je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer. On dirait bien qu'ici la recherche de Dieu part de l'homme qui crie sa détresse. Mais si ce cri porte, c'est qu'il atteint Dieu, un Dieu prêt à entendre. Et quand il entend Dieu, c'est pour agir, et il dit, je suis descendu. Oui, je suis descendu pour le délivrer. Criez vers Dieu. Il vous prendra. Il vous saisira. Aujourd'hui, si vous allez à la messe, vous allez trouver surprenant que l'antienne d'ouverture, c'est-à-dire le beau passage du psaume 16 qu'on récite ensemble au début de la messe, on dit, je veux paraître devant toi, Seigneur, et me ressaisir de ta présence, de ta présence. Puis le prêtre va prier seul une oraison, une prière très belle, qu'il adresse à Dieu notre Père. Ô Dieu Père, qui montre aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit avec toi dans l'unité de l'Esprit-Saint pour les siècles des siècles. Bien oui, qu'on puisse prendre le bon chemin. Le bon chemin. Quelqu'un qui l'a pris, c'est Saint-François d'Assise. C'est Maurice Zundel qui raconte cette histoire très belle où Saint-François retourne à Assise pour demeurer fidèle à son rêve de grandeur. Et Maurice Zundel dit, il médite sur sa vie vaine, en attendant que la voix qui s'est faite en lui le conduise à son vrai destin. Et c'est en rencontrant le lépreux aux portes de la ville, son frère le lépreux, car il y avait déjà des semaines qu'il s'émouvait sur le sort de ces hommes parqués en dehors de la ville, qui recevaient bien sûr le pain dont leur corps avait besoin, mais qui ne le recevaient jamais, le pain de l'amitié. C'est en rencontrant ce frère lépreux qu'il comprend ce qui est exigé de lui. Qu'est-ce qui est exigé de lui? Qu'il quitte son cheval, qu'il s'approche du lépreux, qu'il dépose une pièce d'or dans sa main et la baise, cette main pleine de pu et de sang, et remonte à cheval, paralysé par la présence de Dieu, sûr qu'il vient de rencontrer Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, est-ce qu'il y a autant d'amour? Oui. On a ça dans le Deutéronome. Des siècles avant le Christ, le Deutéronome formule le grand commandement, ce conseil absolu de bonheur. De la part d'un Dieu qui est un père et qui a un cœur de mère et qui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Dans le Deutéronome, chapitre 6, verset 4. On retrouve ça dans Saint Marc, dans l'Évangile. Chapitre 12, verset 30. Mais il explique en même temps d'où vient ce commandement, le Christ. Et comment le vivre? Il vient de ce que Dieu lui-même s'est attaché à Israël d'un lien quasi physique. Il l'a aimé, hein? On trouve ça dans Deutéronome. C'est très beau. Si Yahvé, votre Dieu, s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez plus nombreux qu'aucun des autres peuples, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Pensez qu'Israël, le peuple d'Israël actuellement en Israël, ils sont moins nombreux que les Québécois de langue française au Québec. La moitié moins, à peu près. Mais, dit Dieu dans le Deutéronome, mais c'est parce que Yahvé vous aime et garde le serment qu'il a juré à vos pères. Alors, l'amour n'est pas dans l'émotion puis le sentiment, c'est dans le choix. Dieu a choisi. Puis dans la fidélité, l'amour est fidèle. Et la réponse qu'il demande est du même ordre. Hein? Il demande au peuple d'aimer Dieu, c'est-à-dire c'est le choisir et le préférer à tout pour toujours, et le préférer à tout, tout, et pour toujours. À la source, donc, du Deutéronome, il y a les prophètes. C'est eux qui ont posé l'équivalence entre la recherche de Dieu et le choix du vrai Dieu contre les faux dieux. Eux qui ont posé l'amour à la racine de ce choix. Les prophètes Amos et Osée ont certainement tenu dans ces découvertes un rôle essentiel. Ils ont vu un pays tout entier saisi par l'idolâtrie, comme on est saisi aujourd'hui par l'idolâtrie, sous la pression de ses voisins païens. Et courir demander aux forces aveugles de la nature ou de la société les dons de la vie, la richesse et la fécondité. Alors on va vers les cristaux, les horoscopes, les voyantes, les ci, les ça. Une recherche stérile. Ces dieux inhumains ne sont que des figures que l'homme donne à ses rêves. Comme le dit si bien Jacques Guillet dans le Dictionnaire de spiritualité. Dans Amos, prophète Amos, on trouve ça. Ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal pour les faux dieux, ne passez pas à Bersabée. Cherchez Yahvé et vous vivrez. En somme, ne cherchez pas les cristaux, n'allez pas au casino, ne passez pas par les bordels, ne faites pas du sexe votre Dieu. Dieu fait vivre, seul Dieu fait vivre. Osée va plus loin, lui, le prophète Osée. Il a une expérience douloureuse avec sa femme. Il découvre que le drame de son peuple, c'est d'abord celui de Dieu. Qu'avant de chercher son Dieu, Israël a été l'objet d'un amour et d'une recherche passionnée. Oui, avant de chercher Dieu nous-mêmes, Dieu nous a aimés d'un amour passionné. C'est écrit dans Osée. Quand Israël était jeune, je l'ai aimé, dit Dieu. Je l'ai tiré avec des liens d'amour. Oui, c'est l'amour déçu, l'amour trahi, mais qui ne trouve d'issue que dans un surcroît d'amour, hein, dans Osée. Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Il dit, je vais la séduire, je l'amènerai au désert, et je lui parlerai au cœur, au cœur. Dès lors, Dieu recherche l'épouse coupable, Israël, et réduite en esclavage. Et là, son amour devient rachat, rédemption, libération, liberté vraie, totale. Et dès lors, Dieu peut reprendre espoir. Hein? Il dit, les fils d'Israël reviendront et chercheront Yahvé leur Dieu et David leur roi. Oh, Dieu est consolé, pourrait-on dire. Ézéchiel va plus loin que le prophète Osée dans la révélation du cœur amoureux de Dieu. Mais hérite-t-il la tradition prophétique, hein, il la fixe en images, qui vont rester d'ailleurs, des belles images. Pour toujours. Au temps d'Osée, et d'un peuple corrompu par l'idolâtrie, comme nous le sommes aujourd'hui, Dieu allait chercher dans sa honte une esclave perdue. Et au temps de l'exil et de la dispersion, au moment où ceux qui sont responsables de ce peuple, les rois, les prêtres, les chefs qui ont trahi leur mission, Dieu lui-même devient le berger. Il devient lui-même le berger. Puis, il se met en route. Il dit, c'est dans Ézéchiel, c'est moi qui fera paître mes brebis. Celle qui est perdue, je la chercherai. Celle qui est égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Oui, nous sommes perdus. Laissons-nous chercher par Dieu. Laissons-nous prendre dans ses bras, il nous mettra sur ses épaules. Enfin, la dernière figure de cette recherche divine est celle, évidemment, du serviteur du livre de la consolation. Vous connaissez ça, hein? C'est dans Isaïe. Ça a été écrit il y a 2700 ans. Dieu enfin a trouvé ce personnage. C'est la plénitude de satisfaction de la divinité qui recueille le parfum, on pourrait dire, d'un sacrifice bien précieux. La Bible sait bien que Dieu n'a pas besoin de la graisse des victimes. C'est dit dans le psaume 50. Lisez bien ça, hein. C'est pas des sacrifices que je veux. C'est la conversion du cœur, dit Dieu. Il le dit déjà il y a 2500 ans. Mais elle n'oublie jamais que Dieu est toujours en attente. Hein. Dieu nous attend. L'amour est là qui nous attend. Cherchez ce qui était perdu. C'est ça que Dieu veut. Il aime ce qui est perdu pour nous donner le bonheur. Au plan des formules et des images, le Nouveau Testament n'ajoute pas grand-chose à l'Ancien. J'ai bien dit au plan des formules et des images. Et le visage de Dieu, qui paraît à travers les paroles de Jésus, n'est pas différent de celui des Écritures d'Israël, de l'Ancien Testament. Ça vous surprend peut-être, mais la différence est que dans ces Écritures, ce visage se révélait à travers des intermédiaires et comme à distance. Mais en Jésus, même s'il demeure invisible, il est immédiatement présent. Voilà. Je l'ai dit avec le père Jacques Guillet, dont je m'inspire. On peut présenter quelques moments particuliers significatifs. D'abord, c'est la différence entre Saint Jean-Baptiste et Jésus. Hein? Jean appelle le peuple à se repentir, à se retourner vers Dieu. Il met l'accent sur la démarche de l'homme. Mais c'est pas la même chose pour Jésus. Lui, pendant quelque temps, commencé par une action assez semblable à celle de Jean, là, on le voit tout à coup que lorsque Jean est jeté en prison par Hérode, Jésus change de style. Il se met quoi? À annoncer l'Évangile. Et tandis que les gens venaient en foule trouver Jean-Baptiste, c'est Jésus maintenant qui va trouver les foules. Jésus se met en mouvement, comme nos missionnaires, comme le pape, comme tant de nos prêtres, comme tant de nos laïcs, comme tant de femmes aujourd'hui. Mouvement de celui qui est porteur d'une grande nouvelle et n'a pas le droit de la tenir secrète. Mouvement plus profond encore, c'est celui du médecin qui va trouver le malade, incapable de se lever lui-même. Hein? Jésus, c'est notre grand guérisseur qui nous permet de nous dresser debout et d'aller vers le Père. L'évangile de Jean souligne à sa façon ce jeu entre la recherche de Jésus par l'homme et celle de l'homme par Jésus. L'épisode des premiers disciples met en contraste la marche de Saint-André, disons, et de son compagnon. Vous savez, ils marchent derrière Jésus. Ils sont poussés probablement parce que Saint-Jean-Baptiste leur en a parlé. Puis, qu'est-ce que Jésus fait? Il regarde, il se retourne, puis il dit, « Qui cherchez-vous? » La recherche de Dieu, « Qui cherchez-vous? » Ils ont trouvé en effet ce qu'ils cherchaient et vont le dire à Saint-André puis à son frère Simon, futur Saint-Pierre. Puis Saint-Philippe le dit à Nathanaël, « Nous avons trouvé ce que nous cherchions. » Mais avant qu'ils l'aient trouvé, Jésus les voyait venir et les attendait. Oui, il nous attend toujours. Si Jésus les attend, ou qu'il veut au juste, ce qu'attend Jésus, ce qu'il vient chercher, c'est la vraie foi. La foi ardente, brûlante. Le mot de Jésus, hein, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il encore la foi, la vraie foi, là, sur la terre? Ça ouvre une perspective bien sombre. Oh, c'est triste quand on entend cette parole, hein. Ce serait l'échec de sa mission? Ah. Mais, ce qui lui donne tout son poids, c'est l'émerveillement du Christ, qui découvre à un moment donné chez un centurion païen la foi d'Abraham. Et cet homme, il l'a trouvé en Israël. Il fait pas partie du peuple juif. Chez personne, je n'ai trouvé une foi pareille. On voit la foi déborde le peuple juif. Quelle joie! Quelle foi! Mais il n'y a plus. Ah, Jésus vient pas seulement chercher le fruit que devrait lui donner la récolte de sa vigne qu'il a préparée. Il vient chercher ce qui était perdu, comme je l'ai dit. C'est comme ça qu'il définit sa mission en franchissant la porte de Jassé. Il explique tout ça de façon plus suggestive encore à travers les trois paraboles construites sur des thèmes perdus retrouvés que vous connaissez. Ah, d'ailleurs, la joie qu'éprouve Jésus en trouvant quelqu'un qui est perdu, c'est la joie qu'éprouve un prêtre, son confessionnal, quand nous allons vers lui pour lui dire que nous avons péché et que nous revenons. Et lui, prêtre comme Jésus-Christ, nous prend dans ses bras. Et nous colle contre le cœur de Jésus. En Jésus, Dieu trouve en plénitude ce qu'il cherche de l'homme, ce qu'il attendait de sa création. Oui. Pensons à la peine prise par Dieu pendant des siècles pour les Juifs et toutes ses déceptions. Et Jésus est à la fois l'expression visible de Dieu en recherche de l'homme et de l'homme accomplissant en plénitude le désir de Dieu son Père. Et à partir de Jésus, se laisse pressentir ce que peut être ce désir, ce que Dieu recherche dans l'homme. Qu'est-ce qu'il recherche dans l'homme? Notre amour, la joie du Père à retrouver son Fils perdu pourrait trahir un besoin instinctif de possession. Non, le désir de Jésus de manger la Pâque avec les siens, comme il dit, et de les retrouver dans le royaume pourrait traduire la peur de se retrouver seul. Ne laissons pas Jésus seul. Ne laissons pas Dieu seul. Convertissons-nous tous, moi le premier, pour consoler Dieu, pour l'aimer, pour l'aimer. Oui, il nous faut le personnage vivant de Jésus, sa parfaite simplicité. Il faut sa vie et sa mort. Il faut les rencontres que l'on lit dans l'Évangile avec le ressuscité pour nous donner la certitude de cette recherche de Dieu et le sens de ce qu'elle peut être. Il y faut tous les évangiles, dit si bien Jacques Guillet. Il faut peut-être aussi comparer le visage de Jésus. Dans les trois évangiles, et celui que révèle l'évangile de Saint Jean, le quatrième. C'est le visage est le même, hein? Il s'agit bien du même personnage. Mais le visage de Jésus dans l'évangile de Saint Jean nous dit, en mots faits pour être entendus, ce qu'il laisse comme inexprimé dans les trois autres évangiles, les évangiles synoptiques. Le Jésus du quatrième évangile nous dit ce qu'il est pour son Père et ce qu'est pour lui son Père. Ils vivent l'un pour l'autre, l'un dans l'autre, inséparables et totalement eux-mêmes en se donnant à l'autre. Mais cet évangile dit plus encore, oui. Il dit quelque chose qui explique ce qui remplit les autres et que pourtant ces autres évangiles ne disent pas. Avoir le comportement de Jésus, son besoin d'atteindre les hommes et les femmes au plus profond, de faire jaillir d'eux le meilleur d'eux-mêmes, on ne peut douter que s'il est venu parmi eux, parmi nous, ce soit pour eux, pour nous, et que s'il donne sa vie, ce soit pour nous faire vivre. Et l'on ne peut douter non plus que s'il fait vivre, s'il nous fait vivre, il le fasse d'accord avec Dieu et pour révéler le désir de Dieu son Père. Quand il guérit, quand il pardonne, quand il ressuscite, il le fait toujours par la puissance de Dieu son Père et pour montrer ce que Dieu veut faire avec l'homme. Et comme il est Dieu lui-même, il peut dire « Je ». Le quatrième évangile dit plus « Ce que veut le Père et ce qu'accomplit le Fils, ce n'est pas seulement que l'homme vive, mais écoutez bien, qu'il vive au milieu d'eux, enveloppé de leur amour, saisi par leur joie. Il veut être enveloppé par notre joie, par notre amour. La joie de Dieu ne s'accomplit qu'en remplissant le cœur de ses créatures. » Oui, je répète cette phrase. La joie de Dieu ne s'accomplit qu'en remplissant notre cœur, le cœur de ses créatures. C'est un mystère incompréhensible, auquel cependant nous ne pouvons pas échapper. Oui, la joie de Dieu ne s'accomplit qu'en remplissant nos cœurs. Il faut bien qu'il y ait en Dieu recherche. Et recherche au sens le plus fort du mot, pour que Jésus tienne à nous faire savoir qu'il est venu donner sa vie, qu'il la donne, comme il dit, pour qu'il soit un comme nous sommes un. Il veut que soit en nous l'amour et la gloire dont Dieu entoure son Fils unique. C'est cet amour-là qu'il veut partager avec nous, et même cette gloire, qui est quelqu'un qui est l'Esprit Saint. La création tout entière est suspendue à cette recherche de Dieu. Je répète que la création tout entière est suspendue à cette recherche de Dieu. Et cette recherche ne tient que par la force du Fils pendu à la croix. Contemplez la croix, n'ayez pas peur, c'est contempler Dieu qui nous cherche et qui est plein d'amour. Ah, il faut bien terminer, me semble, sur un regard porté sur la pensée juive. Il arrive souvent que, dans le dialogue toujours difficile mais absolument nécessaire entre chrétiens et juifs, les juifs refusent la notion chrétienne de grâce, d'un don infus qui vient de réunir l'homme à Dieu, qu'ils comprennent comme si ce don permettait à l'homme d'échapper à ses responsabilités, mais c'est pas vrai. Il y a un ouvrage d'un penseur juif de renom, Heschel, qui est paru en français en 1968, où il écrit deux phrases magnifiques que je vous lis. Dans la Bible, les prophètes ne parlent pas tant de l'attention de l'homme à Dieu que de l'attention de Dieu à l'homme. Celle-ci est première. En elle se trouve la source de la capacité humaine à avoir une attention pour Dieu et à le chercher. Et il dit à la page 212, « Dieu n'est pas un être détaché de l'homme, recherché par lui, mais une puissance qui recherche l'homme, qui le poursuit et l'appelle. » Oui, Dieu existe, Dieu nous cherche, et notre recherche doit s'orienter vers ce Dieu qui nous cherche. C'est Bossuet qui dit « Quand Dieu nous a fait à son image, il a créé en nous, pour ainsi parler, ce secret endroit où il se plaît d'habiter. Car il entre intimement dans la créature faite à son image, il s'unit à elle par l'endroit qu'il a fait à son image, où il a mis sa ressemblance. L'homme ne lui est pas étranger, puisqu'il l'a fait, comme lui, intelligent, raisonnable, capable de le désirer, de jouir de lui. Et lui aussi, il jouit de l'homme. Il entre dans son fond, d'où il possède le reste. Il en fait son sanctuaire. Ô homme, ne comprendras-tu jamais ce que ton Dieu t'a fait? Nais-toi à Dieu, ton temple, son temple, car il y veut habiter. Crois seulement, mais d'une foi vive. Tu n'auras besoin d'autre temple que de toi-même. C'est Bossuet, ça, l'évêque de Meaux. Il y a des siècles. Il ajoute que Dieu t'écoute de près. Il est en toi. Il y demeure. Il y règne. Son fils y est avec lui. Quand il t'a fait à son image, il a parlé avec son fils de l'ouvrage qu'il allait faire. Et il a dit, faisons l'homme à notre image et ressemblance. Et maintenant, il vit en toi, avec lui. Il l'envoie continuellement de son sein dans le tien. Il y envoie aussi son Esprit Saint, sanctificateur invisible de ce temple que tu es. Il faut être juste pour cela. Juste. Il faut être juste. Car il ne peut pas habiter dans une âme souillée. Oh, homme, comment peux-tu souffrir le péché? Temple de Dieu, comment peux-tu mettre une idole dans ce sanctuaire? Non, je me veux retirer en Dieu. Et que faut-il faire pour cela sinon se recueillir en soi-même? Mais l'y sentons-nous? L'y trouvons-nous? Dieu n'est-il pas en nous d'une manière vive et qui se fasse sentir? Jésus-Christ a dit du Saint-Esprit, « Vous le connaîtrez parce qu'il sera en vous et qu'il y demeurera. » Nous devons donc aussi connaître et sentir en nous le Père et le Fils, puisqu'ils y sont et qu'ils y demeurent. Oui, sans doute il est ainsi. Dieu se fait sentir en quelque sorte lorsqu'il arrive en nous. C'est ce que saint Paul nous rapporte. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ô Seigneur, ô Trinité Sainte qui nous habitez, n'allons pas chercher plus loin. Vous êtes là, et nous voulons nous conformer à votre très sainte volonté d'amour. Amen.